voix nue. Cette semaine, Emmanuel Laurentin s'entretient avec Jacques Le Goff et Jean-Pierre Vernant. Aujourd'hui, premier volet, les maîtres.
Jacques Le Goff, Jean-Pierre Vernant, bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons chez vous, Jacques Le Goff, à l'occasion de votre anniversaire et de celui de Jean-Pierre Vernant. Vous avez 10 ans d'écart et me disiez-vous avant cet entretien, nous arrivons à des âges où ces 10 ans d'écart ne font pas grande différence. 80 ans pour vous, Jacques Le Goff, 90 ans pour vous, Jean-Pierre Vernant. Je sais que vous n'aimez pas le thème des générations, qui est très souvent développé, génération intellectuelle, qui est très souvent développé dans la presse, en particulier dans la presse française, Jacques Le Goff. Mais néanmoins, c'est vrai que vous participez d'une génération intellectuelle qui s'est forgée avant-guerre pour vous, Jean-Pierre Vernant. Vous avez commencé
c'est
à travailler...
C'est la même que Le Goff.
C'est la même que Le Goff.
Oui, tout à fait, parce que j'ai commencé après la guerre. Et...
Je crois qu'on peut dire, là je serais d'accord pour une génération... On peut dire que nous sommes de la génération de la libération.
Très exactement.
Voilà.
C'est ça.
Moi, je le suis aussi d'un point de vue intellectuel comme toi. Toi, tu l'es plus que moi parce que tu sortais d'une guerre que tu as faite, je crois qu'il faut le dire, tu as été un héros de la résistance.
Ah non, non.
Colonel Effefi, rappelons-le, donc à Toulouse. Ça pourrait d'ailleurs être, si on cherchait absolument à vous rallier, un point géographique commun, ça n'est pas votre choix d'être allé à Toulouse à ce moment-là. Non. Vous étiez à Toulouse, c'était le cas pendant la guerre, Jean-Pierre Vernant. Et vous, dans un de vos ouvrages, Jacques Le Goff, vous évoquez Toulouse à cause de Saint-Cernin. Et vous dites que vous rendant en 39 à Saint-Cernin, vous avez été touché, non pas par la grâce de l'art médiéval, mais en tout cas que ça a participé peut-être à votre... éclosion intellectuelle au Moyen-Âge. Alors, c'est peut-être oui. tiré un peu beaucoup la comparaison.
Il y a eu une petite anecdote personnelle. Je ne sais pas, je n'aime pas beaucoup. Je n'ai pas du tout l'intention d'écrire des mémoires. Je ne me considère pas comme moi-même un sujet intéressant pour l'histoire. Toutefois, je crois que la famille étroite dont je suis sorti peut-être intéressante d'un point de vue historique. Ce sont des gens modestes. Mon père était professeur de lycée, du secondaire. Ma mère était professeure de piano. Mais ce qu'il y avait d'intéressant, et pour tout dire d'émouvant, est quelque chose qui reste pour moi un très très grand souvenir, en dehors des questions affectives, c'est que ils étaient très profondément opposés du point de vue, nous dirions, idéologique. Ma mère était d'origine italienne, une très fervente catholique pratiquante, et mon père, qui sortait de l'affaire Dreyfus, était resté un anticlérical farouche. Et sur certains points, il faut le dire, quelle admiration que j'ai eue pour lui... un peu exagéré, et ainsi étant allé avant la guerre, en vacances dans les Pyrénées, en nous arrêtant à Toulouse, et pour aller visiter Saint-Cernin, mon père a dit « je vous laisse aller, moi je n'entre pas dans une église ». Et alors j'avais eu l'audace, à cet homme que j'admirais beaucoup, qui était un homme qui avait un caractère, de lui dire « mais papa, tu es ridicule, c'est le Moyen-Âge, c'est l'art que nous allons voir, c'est pas le bon Dieu ».
Alors, c'est peut-être un point commun que je découvre avec vous, c'est que
oui,
vous êtes issu d'une famille
tout à fait anticléricale.
Anticléricale et dreyfusarde.
Tout à fait, mon grand-père, Adolphe, avait fondé un journal qui s'appelait Le Briard, un journal dit républicain, qui avait en face de lui l'abri, qui était le journal clérical. Il s'est prononcé pour Dreyfus, au moment de l'affaire Dreyfus, ce qui lui a valu, m'a-t-on dit, beaucoup de difficultés, de gens qui se désabonnaient. Et mon frère et mon beau-père, qui a pris la suite, avaient été, quand il était plus jeune, membre du Parti Socialiste. Et ensuite... il s'est fait tuer à la guerre, mais c'était la même orientation. Et j'ai toujours vécu dans ce milieu pour qui le cléricalisme, c'était un peu l'ennemi. Et bien entendu, je pense que ça a joué quand je suis arrivé au Quartier Latin et que je suis tombé dans les années 34 sur
les ligues.
Sur les ligues, très actives au Quartier Latin. L'opposition que j'ai eue tout de suite à leur égard, le fait que je me suis rallié d'abord à des choses comme la LORS, Ligue d'Action Universitaire Républicaine et Socialiste, et que j'ai viré vers les jeunesses et le Parti communiste, j'avais en même temps le sentiment que je restais fidèle à une certaine tradition familiale.
Alors, donc, à chercher comme ça, on en trouvera, j'imagine, lors de ces entretiens, des points communs. On pourrait également noter, alors ça c'est dans la carrière universitaire, votre passage à tous les deux, évidemment, à la sixième section de l'École des hautes études en sciences sociales, le fait que vous avez été gratifié l'un et l'autre de la médaille d'or du CNRS, oui. Le fait que vous ayez travaillé tous les deux dans le sillage des annales. Mais ce qui est curieux, et on l'a vu puisque vous vous tutoyez et vous continuerez à vous tutoyer pendant ces entretiens, ce qui est curieux, c'est que tout compte fait, vous n'ayez jamais produit de travaux ensemble. Et je voulais peut-être venir là-dessus, puisque vous avez produit des travaux avec quelqu'un qui est éminemment proche de Jean-Pierre Vernant, à savoir Pierre Vidal-Naquet. Et je crois d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, que c'était autour de Lévi-Strauss en particulier, oui. Jacques Le Goff. Alors, vous vous êtes croisés, vous avez évidemment lu les ouvrages l'un de l'autre, et vous n'avez jamais travaillé ensemble, Jacques Le Goff ou Jean-Pierre Vernant. Jacques Le Goff, peut-être.
Oui, il faut dire que si j'ai publié des travaux, et parmi ceux qui me touchent le plus peut-être, en collaboration avec quelqu'un, je n'ai jamais publié d'ouvrage en commun. Oui, on ne peut pas appeler direction d'ouvrage la direction du dictionnaire raisonné de l'Occident médiéval que j'ai co-dirigé avec Jean-Claude Schmitt. J'ai publié des articles. Et évidemment, il y a un article qui fait d'une certaine façon le lien entre
bien
nous,
sûr.
Puisqu'il s'agit d'un article que j'ai publié en commun avec Pierre Vidal-Naquet, qui, lui, a écrit des livres avec Jean-Pierre Vernant. Mais tout ceci montre que nous étions tous les trois influencés, ou même que nous avions tous les trois des visées, des intérêts que l'on peut dire anthropologiques.
Certainement.
Jean-Pierre Vernant.
Certainement, en effet. Mais l'occasion ne se présentait pas, mais à l'École des hautes études, surtout au départ, quand elle était encore la sixième section, nous n'étions pas très nombreux, il y avait des gens, des têtes, des personnes qui vous étaient proches, même si on n'écrivait pas avec eux. Le Goff l'était pour moi, j'imagine que je l'étais aussi pour lui. Alors écrire, j'ai écrit avec Vidal, en réalité, quand nous avons publié des livres en commun, il y avait la partie de Vidal, la partie de moi.
Oui.
Le seul livre que j'ai écrit, si je peux dire à deux mains, c'est celui avec Détienne, sur les ruses de l'intelligence, la métisse des Grecs.
Et nous y reviendrons dans une autre partie de cette émission.
Parce que je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que, quelque ouvert que nous étions, quelque envie que nous avions de sortir du territoire très balisé par nos ancêtres et nos prédécesseurs. Nous avons envie d'explorer, n'est-ce pas ? Nous avions conscience que on ne pouvait dire et écrire des choses pertinentes qu'en restant dans un certain domaine de spécialisation, et qui d'ailleurs était pour l'un et pour l'autre déjà considérable. La Grèce antique, c'est quelque chose,
bon
et le Moyen-Âge aussi. Par conséquent, nous ne sortions jamais complètement Jean-Pierre Vernant de la Grèce antique et moi du Moyen-Âge. Je pense que c'est, d'ailleurs, enfin, ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais je pense que c'est une bonne attitude que celle qui consiste à combiner l'esprit de recherche le plus ouvert possible et un territoire connu qu'il s'agit de après l'avoir défriché, de cultiver le plus en profondeur possible. Il y a dans toutes les sciences, je suppose, mais en particulier en histoire et en philosophie, ce souci, cette nécessité, je dirais même, de combiner l'étendue, l'espace et la profondeur. Il faut s'implanter.
Il faut s'enraciner, même si c'est
vrai. Bien sûr que oui. Et s'enraciner, pour un type comme moi, qui était à l'origine philosophe, puisque c'est en 37 que je passe la grille de philo, qu'ensuite, de 37 jusqu'en 48, je ne fais pas de recherche. Je me rappelle, c'était Jamati qui était directeur de la recherche à la Libération. Meyerson m'a dit, Jean-Pierre, donc, il faut faire Meyerson, recherche.
Donc, était votre...
J'ai été voir Jamati, très gentil. À ce moment-là, la recherche n'était pas une énorme machine, un peu bureaucratisée. C'était très amical. Alors, je lui ai dit, voilà, peut-être je pourrais... J'étais professeur au lycée Jacques Decour encore, en 48. Je dis, j'aimerais bien faire un travail de recherche, mais je n'ai rien publié. J'avais publié des articles dans Action, des articles de politique étrangère. Je ne pouvais pas en faire état. Et il m'a dit, je me souviens de ça, écoutez Vernon, il n'y a pas de problème, vous serez pris comme attaché de recherche, vous serez détaché, que vous ayez publié ou pas. Les autres ont publié à votre place. Vous, vous avez déjà donné pour le reste. Maintenant, vous avez le droit à la recherche.
Je crois que ce que vient de dire Pierre Vernon est très important, non seulement pour nous, mais pour cette génération de la Libération. Nous avons eu la chance de trouver des institutions qui étaient des institutions ouvertes.
Des institutions neuves aussi.
Et neuves, absolument.
Oui,
le CNRS, dont il faut bien dire qu'il a joué dans la recherche française un rôle absolument capital. Les fondateurs du CNRS, depuis Félix Gras, sont véritablement des grands hommes de la recherche française. Et puis, il y a eu, fondé juste après la guerre, par Lucien Febvre et dans le souvenir de Marc Bloch, la sixième section de l'école pratique des hautes études. Et puis, bien entendu, ensuite, Jean-Pierre est allé dans un endroit qui est pluridisciplinaire par essence et depuis le XVIe siècle, le Collège de France. Parce que je crois qu'il est bon de dire... les historiens que nous sommes, toi aussi, doivent souligner l'importance du rôle des institutions. Nous nous sommes plus ou moins dressés contre une histoire du XIXe siècle qui accordait trop de place aux institutions. Mais il faut aussi dire qu'il faut accorder aux institutions, en leur donnant, bien entendu, justement, toutes leurs dimensions, l'importance qu'elles ont dans la vie des sociétés.
Jean-Pierre Vernon ?
Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que dit De Goff. J'ajouterais peut-être que, à cette période, 46-48, après la Libération, les chemins étaient ouverts. Il y avait des institutions qui ont été créées, et il y avait des hommes qui dirigeaient ces institutions, et qui étaient des gens ouverts, généreux, d'accès très facile. On allait voir les directeurs du... On n'avait pas besoin de prendre rendez-vous, on frappait, entrait, voilà. C'était... Il y avait quand même, dans cette période, tu as dit la génération d'après la Libération, il y avait une espèce de dynamique, d'enthousiasme, et de...
De quelque chose qu'il fallait construire, une recherche qu'il fallait reconstruire.
Qu'il fallait reconstruire, et... C'était pas lourd, c'était facile, et des gens comme Jamati étaient des types épatants, qui, pour qui l'essentiel de la recherche était d'aider les chercheurs, de leur faciliter le boulot, de leur donner les moyens, et pas de gérer une énorme machine bureaucratique.
Alors, Marc Bloch écrivait, je crois, « Les hommes sont plus les fils de leur temps que de leur père ». Vous avez rajouté dans un texte récemment, Jacques Le Goff, que les hommes sont peut-être aussi les fils, plus les fils de leur temps et du temps de leur père que de leur père. Mais en tous les cas, on voit bien depuis le début de cette discussion que cette question de l'après-guerre est extrêmement importante justement pour les espoirs qu'elle portait. Et puis peut-être aussi pour le fait que c'est à ce moment-là que vous avez commencé à vous armer en tant que chercheur. Et quand on s'arme en tant que chercheur, en tant que jeune chercheur, on s'arme aussi contre des idées reçues, contre des topoi, comme on dit, ou des idées reçues sur sa discipline, la discipline qu'on s'est choisie. C'est peut-être un des autres points communs que vous avez tous les deux, Jacques Le Goff et Jean-Pierre Vernant, c'est de vous être battus contre les idées reçues qui étaient les idées reçues du terrain que vous aviez choisi. Vous, le Moyen-Âge, Jacques Le Goff, vous, Jean-Pierre Vernant, l'Antiquité.
Puis, je crois qu'il faut dire que, comme pratiquement tout intellectuel, tout chercheur, nous avons eu des maîtres. Et que ces maîtres nous ont beaucoup appris, nous ont beaucoup guidés, nous ont ouvert des perspectives. Tu en as évoqué, je pense que tu vas en reparler, Ignace Meyerson, il y a Gernet.
Louis Gernet.
Personnellement, je dois dire que tous ces, à cet égard, est né aussi après la libération, dans les années qui ont suivi la guerre, certes.
Vous passez l'agrégation en 1950, je crois.
Voilà, je dois dire toute la reconnaissance que j'ai envers mon prof de quatrième, qui n'était pas du tout un spécialiste du Moyen-Âge, qui est devenu un spécialiste du très contemporain, c'est Henri Michel, qui a été le directeur de...
Le fondateur du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, après avoir été un grand résistant.
Ça a été mon professeur de quatrième l'année où on expliquait le Moyen-Âge. Et cet homme, qui était donc essentiellement intéressé par le contemporain, qui était très laïque, qui était socialiste, a su nous donner une image, et pas du tout déformée, une image du Moyen-Âge dans ses réalités religieuses, etc., parce que c'était un merveilleux professeur et un merveilleux historien. Mais s'il m'a donné le goût du Moyen-Âge, la façon de faire l'histoire... Elle m'est venue après la guerre, et je dirais à un moment, et là je dois, moi, toi tu n'as, je crois, pas connu ça, faire allusion à une période, je dirais presque de doute, parce que même si j'ai connu des professeurs intéressants, sympathiques, à la Sorbonne des années 45-50, c'était plutôt réfrigérant. L'histoire à la Sorbonne, ces années-là, et j'ai eu des périodes de vrais doutes, y compris de tentation d'abandonner l'histoire. Et puis, il y a eu ce que je considère encore comme un miracle. Ça existe, hein, les miracles, ça existe au Moyen-Âge, ça existe encore.
Le miracle grec, oui, on pourrait en parler.
Le miracle grec. Et ça a été ce à quoi vous venez de faire allusion, ça a été l'agrégation de 1950. On a changé le jury d'agrégation.
Le président du jury.
Le nouveau jury était un jury, il faut bien appeler, des révolutionnaires. Le président du jury était Fernand Braudel. Et pour moi, ce qui a autant compté que Fernand Braudel, c'est que le membre du jury spécialisé dans le Moyen-Âge est quelqu'un de pas très connu parce qu'il a très peu publié, qu'il est mort relativement jeune, Maurice Lombard, qui a été, pour moi, mon principal maître. Et c'était étonnant, mais en même temps, c'était très passionnant. Parce que ce dont nous témoignons, ici, je crois, c'est le fait que on est historien et historien proche, même si on travaille sur des domaines très éloignés. Or, Maurice Lombard était un spécialiste de l'islam. De l'islam, certes, médiéval. Mais moi, je n'ai su de l'histoire de l'islam, ce qui, d'ailleurs, ce que j'ai appris de lui me sert encore aujourd'hui, que ce que j'ai appris à ses cours, à son séminaire. Mais nous avons profondément sympathisé avec Maurice Lombard, et Maurice Lombard m'a appris, entre autres choses, l'importance de l'espace en histoire. Pour lui, ce qui l'intéressait dans l'islam, c'était l'espace qu'il avait conquis, dans lequel il s'était répandu, la fusion des civilisations qu'il avait réalisée dans cet espace, depuis l'Inde jusqu'à l'Espagne et au Maroc. Et j'ai su de façon définitive que l'histoire se fait dans des lieux. Et puis alors, est venue en même temps, avec ce jury de 1950, la lecture des annales. Vous savez, au début, on faisait ça d'une façon tout à fait utilitaire. On avait vaguement entendu parler des annales, mais très peu étaient ceux parmi nous qui avaient lu le numéro des annales. Puis là, on s'est dit, si on va être reçu au concours, il faut lire les annales. On s'est mis à lire les annales, et ça a été l'enchantement, parce que les annales ouvraient des horizons extraordinaires.
Pour vous aussi, les annales comptaient dans ces années d'après-guerre, Jean-Pierre Vernon? Et, oui, et comment? Parce que vous étiez philosophe de formation.
Tout autrement. Pourquoi? Vous posiez le problème, comment on est arrivé sur un terrain et où on y était un petit peu étranger en même temps qu'on l'explorait. Alors là, moi, j'étais bien servi. Il y avait Meyerson, psychologue, mais qui avait conçu une psychologie tout à fait différente de celle qui triomphait dans les années d'après-guerre, parce que ce qui triomphait chez les psychologues, avec Pierron, c'était la psychologie américaine.
Absolument.
Psychologie, disons, scientifique, non, positiviste. Mais Meyerson, pas du tout. C'était un personnage qui s'intéressait à la peinture, à la littérature, à l'Inde, à la religion chinoise, tout ce qu'on veut. Bon, lui, donc, à part. Et Gernet, Louis Gernet aussi. Louis Gernet était à partir... Là, on voit les racines. C'était un Durkheimien à l'origine, avant la guerre. Il faisait partie... Il y avait deux hellénistes dans l'équipe de Durkheimienne. Il y avait Gernet et il y avait David, le père de Madame de Romilly, qui était aussi helléniste et sociologue. Alors, Gernet avait pondu une thèse sur l'évolution des idées morales et juridiques en Grèce, qui est un très grand livre, qui a été très mal pris par les hellénistes, qui disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires à dormir debout? Et c'est seulement parce que, et Gernet, dès le début, et Meyerson ensuite, ont été aspirés par l'école des hautes études, 6e section, c'est ce lieu qui les a reçus, ces gens qui étaient de première taille, mais marginaux, et que moi, dans, si je peux dire, dans le sillage, j'ai suivi. Par conséquent, je me situe sur un terrain, c'est Gernet, la psychologie, l'anthropologie, c'est Meyerson qui me l'a vraiment distillé, instillé pendant des années. Il était à Toulouse avec moi, et j'étais pendant un certain temps prof au lycée de Toulouse, et il m'expliquait tout. Il m'a appris ça. Et Gernet, pour moi, j'en suis pas revenu, Gernet. C'est une révélation. Les séminaires de Gernet, à partir de 48, à l'école des hautes études, c'était le bonheur. Quand on y allait, on attendait ça comme d'aller voir un grand film au cinéma. Et tout d'un coup, c'est un monde qui s'est découvert à moi.
Donc, vous diriez presque que vous avez peu de mérite à avoir brisé les barrières disciplinaires, parce que
je dirais pas presque, je dirais, et ma tradition intellectuelle, et mon expérience, et mes maîtres, et l'école des hautes études où je me suis trouvé, obligatoirement, ça me plaçait à côté, et en dehors, d'ailleurs, les institutions hellénistes officielles me regardaient comme un rigolo.
Le mouvement essentiel de rupture et d'ouverture, il a été fait, tu viens de le dire, et c'est encore plus vrai pour moi, avant nous. Moi, j'ai nommé Maurice Lombard parce qu'il a été concrètement mon maître, mais je dois dire que j'ai en même temps, dans ces années 50, eu un autre maître que j'ai découvert, que je n'ai pas connu parce que, malheureusement, comme on le sait, il s'agit de Marc Bloch. Bloch, autre héros de la résistance, a été fusillé par les Allemands en 1944, mais son œuvre est devenue, pour moi, l'œuvre essentielle, et le Moyen-Âge de Marc Bloch, c'est, si j'ose dire, le mien, et j'ai conscience de ne pas y avoir tellement ajouté.
Nous y revenons.
Un mot, simplement. Il y a à la fois les racines, il y a la génération, il y a les lieux, comme tu disais tout à l'heure. Lombard. C'est pas par hasard que Lombard, à l'école des hautes études, a soutenu Meyerson, toujours a participé au colloque que Meyerson faisait.
Absolument.
C'est-à-dire que historien, psychologue, historien, anthropologue, helléniste, il y avait quand même des lieux où on se retrouvait.
Nous en reparlerons demain avec vous, Jacques Le Goff et Jean-Pierre Vernon.
C'était « À voix nue ». Emmanuel Laurentin s'entretenait avec Jacques Le Goff et Jean-Pierre Vernant. Demain, deuxième volet, la levée des barrières disciplinaires. Équipe de réalisation, Jean-Marie Charon, Pierrette Perronneau.